11h, c'est l'heure de la maraboutique.
Manu Dibango sur Africa numéro 1, la maraboutique.
Maraboutique du dimanche matin, Tito. On y va ensemble dans notre Bastille et on la prend.
Musicalement, avec un goût de vacances, ces fameux congés de la Toussaint, où tout le monde se presse sur la route ou alors dans les aéroports, c'est vrai que c'est une bonne période pour faire une séance de rattrapage au pays pour ceux qui n'y ont pas été pendant le mois d'août ou juillet.
C'est toujours le même scénario, hein. Les routes sont pleines, on se plaint d'ailleurs, l'essence coûte cher, le gasoil coûte cher, les billets d'avion n'en parlons pas, toujours est-il que c'est toujours sold out.
Mais on y va quand même, comme dit la chanson.
Et en même temps, hein.
Et alors, en même temps. Alors, file d'attente pour ceux qui, ben voilà, qui sont toujours là, avoir les réservations, tarifs moins chers ou plus chers. Il faut dire que c'est quand même un secteur de Hamanou qui, eh ben, qui connaît pas la crise. On a beau dire compagnie aérienne, licenciement,
ah non,
il
n'y a pas de temps mort.
Mais finalement, il n'y a pas de temps mort.
Même dans les low cost, maintenant, de plus en plus d'ailleurs, il y en a qui se sont fait avoir. Les grosses compagnies n'ont pas vu venir le gag.
Ouais.
Les low cost. Alors, tout le monde se précipite maintenant pour avoir son low cost, quoi.
Comme un air de Scandinavie qui, depuis maintenant, s'est éparpillé. Et puis, on parlait de vacances. Ben, tu es venu avec un ouvrage sous le bras. Couleur Sénégal, signé donc de Laurent Gérer, G-E-2-R-E-R. Ça a été édité d'ailleurs à Dakar.
C'est un ouvrage
magnifique et qui est intéressant, Douamanou, parce que là, on n'est pas du tout dans le coup du tour opérateur.
En disant, non, c'est des photos faites avec amour.
Faites avec amour.
Un vrai photographe, une mise en page extraordinaire.
Ce sont autant de pages que de cartes postales. Et puis surtout, on ne va pas qu'à Dakar, on va également du côté de Saint-Louis. Ville historique, une dar pour les intimes, avec ses façades qui maintenant font partie du patrimoine d'ailleurs de l'UNESCO. Et puis il y a des visages et des sourires. Ça veut dire que c'est une déclaration d'amour, comme le dit l'auteur, à ce pays qu'il aime beaucoup, où parfois le soleil au zénith est à 48
degrés. C'est carrément des peintures, c'est-à-dire en grand, tu peux afficher ça chez toi. Vraiment un très très beau bouquin, hein. Et c'est pas bling-bling. Hein.
Ah, pas bling-bling, et puis accessible. Il a été édité en 2011-2012, mais à mon avis, pour ceux qui nous écoutent sur les www.africa1.com, vous pourrez peut-être le découvrir, peut-être à la librairie Athéna à Dakar, où, qui est un endroit où on aime bien
chiner. Ou peut-être ici, en fait. Mais il peut aller à l'Harmattan.
Ou sur les quais. Et puis on parlait de voyage. Quel beau décor pour ceux qui veulent voir l'autre facette du Sénégal, avec la Casa di Mansa, Ziguinchor, l'escale magnifique avec des couleurs vertes qui nous plaisent.
Et il y a les images films, mais quand on arrive à voir cette qualité d'image dans un livre, c'est la même chose, hein.
Alors c'est régale, pour tous ceux qui aiment d'ailleurs avoir, qui ont le réflexe, mais comme François ou moi, de faire des photos uniquement avec leur portable, il faut des fois s'arrêter sur ce qu'on voit avec des appareils à l'ancienne, en train de mettre une...
Ah ouais, là c'est vraiment avec amour, hein, parce que là il a pris le temps. Chaque photo, elle est...
Des images de Gorée d'ailleurs, que tu connais bien, hein, chez l'ami Saint-Gor, le maire d'ailleurs.
Gorée.
Un très très bel endroit, un lieu de mémoire.
Donc, si vous avez la curiosité de chiner un peu, voilà, une belle occasion d'offrir. C'est un très beau cadeau, d'ailleurs.
Ah ben oui, c'est un très très beau cadeau, alors le garde bien. Et alors, un cadeau qu'il s'est fait, d'ailleurs, lui-même, que nous nous sommes fait, c'est celui de l'ouvrage de l'ami Alain Mabankou. On en avait parlé de Hamanou il y a quelques jours.
Ouais.
Ce fameux roman, Les Cigognes sont immortelles, c'est toujours dans l'œil du souvenir de Ndindi, sa ville, où maman Pauline et papa Roger, donnèrent d'affection au jeune Michel. Alain Mabankou, avec cet ouvrage qui est un de ceux dont on a beaucoup parlé lors de la rentrée littéraire. Alors Alain, Tata Mabankou, nous avons l'ouvrage, mais si tu nous entends ou si Caroline nous entend, tu peux venir nous voir, rappelle-nous.
Parce que je te signale que je l'ai acheté à la gare. Hein. en allant faire un concert, je ne sais plus quoi, à la gare de Lyon. Voilà. Et donc, il m'a flashé dans l'œil. Et puis, bon, je me suis rappelé que tu as sorti un bouquin. Ben, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais vous pouvez faire comme moi, aller acheter, puis vous allez lire après. Hein.
Et oui, et il est donc édité, c'est à Fiction et Compagnie, pour ceux qui veulent le voir, c'est le Seuil, c'est la collection Fiction et Compagnie, c'est le Seuil, Alain Mabankou, dont on dit beaucoup de bien, pas simplement en France, mais aussi du côté de UCLA, puisque monsieur enseigne la littérature francophone dans cet illustre endroit.
Voilà, 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 il est au moins trilingue. Hein. Il parle lingala, il parle français, il parle anglais, ben, il est armé, hein, lui.
Et porte sacrément bien le chapeau, voilà. Comme beaucoup d'ailleurs qui sont dans ce studio.
Ben, tu vois, cette émission-là aujourd'hui, avant qu'on accueille notre sympathique, très sympathique, notre petit frère, ça veut pas dire petit en talent, parce que le talent est grand, hein, petit frère, parce que c'est génétique, c'est la force des choses. Je voudrais quand même avoir une pensée pour tous ceux qui tombent en ce moment en Afrique, qui tombent mal, parce que les situations dans beaucoup de pays sont ce qu'on sait, mais il faut qu'ils sachent qu'on pense à eux et que vraiment on prie pour que pour des lendemains meilleurs, quoi.
Et oui, avec ce son que l'on n'aime pas beaucoup, on préfère les notes de musique au reste. Voilà. Quand ce ne sont pas des attaques ou des enlèvements à l'est du Faso, du côté du Cameroun, ça crépite. Du côté de l'est de la RDC, avec ses morts à Béni, entre 15 et 19 victimes et un peu partout. Voilà, vivement le retour de l'humain, a-t-on lu une fois sur la toile, après les attaques qui frappèrent, souvenez-vous, la place parisienne.
Heureusement qu'il y a des belles voix qui rassurent. Nous avons quelqu'un qui a une très belle voix, un bel instrument. L'instrument le plus naturel de l'être humain, en fait, c'est la voix. Et il y en a deux là aujourd'hui. Il y en a un qui vient des États-Unis, qu'on va opérer doucement. Monsieur Sitson,
salut,
de son
Gino.
Nom.
Bonjour, madame.
Comment are you?
Très bien, très bien. Très heureux d'être là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Robert.
Alors, c'est bien parce que toi, quand tu traverses l'Atlantique pour venir, tu t'annonces. C'est une chance immense parce que, avec les amis comme Lionel Loueke et quelques autres, c'est je suis là, j'en ai que pour 24 heures. Donc, c'est difficile de les attraper. Mais toi, tu es là, ça nous fait plaisir. Alors, si tu es là, c'est que tu prépares, tu as quelque chose sur le feu?
Oui, l'album sort, je crois, au mois de février.
À l'approche du printemps.
Oui, voilà. Donc, j'attends.
Un bon mois, tu vois, pour aller vers le soleil. Donc, c'est très bien, le mois de février. Et puis, combien de morceaux dans ton album?
14 morceaux, au total.
14 morceaux.
Toujours généreux.
Des invités assez prestigieux.
Oui.
Il y en a un qui est parmi nous, là, je crois.
Alors, voilà. Oui, c'est invité. C'est la première fois sur tes œuvres. Mm-hmm. Voilà, parce que sinon, évidemment, vous avez déjà collaboré.
On a collaboré longtemps, mais disons qu'il a pris un chemin vocal, très uniquement vocal, et puis bon, parfumé naturellement de quelques instruments, mais essentiellement vocal, et un chemin assez rare dans nos musiques. Parce qu'on a ça, on en a les Bobby McFerrin aux États-Unis, mais on n'a pas ça dans la littérature africaine, tu vois. Et il est le premier à faire ce genre d'exercice. Et ça a l'air simple, c'est pas simple, parce qu'il m'a piégé là. Comme maintenant, on n'a pas besoin d'être tous ensemble au studio, il est à New York, il m'envoie des éléments. Et je dois ajouter un élément là-dessus. Après, bon, bah, il mixe, il appelle d'autres invités et tout ça. Alors, tu as très peu d'éléments. Alors, ton imaginaire doit travailler fortement dans une rigueur que lui, il t'a imposée. Tu vois, je veux dire, une rédaction. Faut que tu fasses ta partie, quoi. C'est très intéressant, mais c'est assez éprouvant quand tu sors de là, quoi.
Oui, bah apparemment tous les deux ont le sourire et Gino à ce moment-là se met la tête entre les mains. Ben c'est l'occasion de te demander justement comment est-ce que tu penses cette musique. Il y a beaucoup d'images, de visuels, de clips où on te voit dans la nature, avec cette nature d'ailleurs qui s'exprime. On entend l'eau, on entend le souffle du vent dans les feuilles. C'est une matière toi qui te conditionne, qui te donne des idées.
C'est un peu une colle. En fait, pour moi, c'est un ensemble de choses, en fait. Tout ce que je vois et tout mon vécu, en fait, je mets ça en musique, voilà. Je mets ça en musique, j'écris comme je... Bon, parfois, il y en a qui vont dire, c'est très instinctif, mais l'instinct aussi vient de quoi? c'est le résultat, le fruit de tout ce qu'on a déjà intégré au fond de soi, qui rejaillit.
C'est ça, c'est une synthèse, voilà. C'est une synthèse en fait instinctive.
Après, bon, après il y a un travail d'organisation de ce sonore-là qui est là, l'écriture, l'orchestration. La particularité de ce projet, surtout comme Manu essayait d'expliquer tout à l'heure, c'est que en fait, c'est enregistré en comme une musique de chambre. En fait, c'est vraiment, je vais pas donner les détails pour l'instant, je garde secret. Et les trois éléments qui sont dans l'album, les principaux éléments du groupe, dont la clarinette, le violoncelle et l'alto, ont joué dans la même pièce. Donc vraiment dans la même pièce, comme dans les orchestres de chambre. Il y a que moi et Manu et moi qui sommes enfin
ah ouais, moi j'ai juste amené mon pyjama, voilà.
Et c'était, le jeu était assez serré parce que dès qu'il y a une, si ça marche pas, s'il y a une note qui va pas, on reprend. Donc c'était vraiment c'est très écrit, mais en même temps il y a une liberté dans ce qu'il a apporté. D'ailleurs c'est fabuleux, on était tous émus au studio d'ailleurs quand on mixait l'album. Mon ingénieur du son Dave Darlington était très impressionné et très content quoi du résultat.
Et tu as mixé ici ou aux États-Unis?
À New York.
D'accord.
Avec le groupe avec lequel je tourne depuis un bout de temps. Et
tu sens une complicité entre eux. Alors maintenant, il faut que tu te trouves là-dedans.
Là-dedans. Et avec l'expérience et le talent, bon, lui.
Alors c'est bien parce que tu parlais de cette couleur avec. Tu parlais de musique de chambre, des cordes. Mm-hmm. Dans l'opus précédent, déjà, mm-hmm. il y avait cette approche, on pourrait dire ça dans Élégie, opus 24, et cette approche vers. Ce qu'on appelle avec un grand C le classique, mm-hmm. voilà cette musique. Mm-hmm. Ça a été quoi le tournant pour aller vers cet univers?
En fait, j'avais envie de faire ça depuis un bout de temps. Mais très honnêtement, tout ce que j'ai écrit là, moi j'entends la voix partout en fait. Mm-hmm. Je croyais que je pouvais faire ça avec des voix, mais c'est complexe parfois parce qu'au niveau d'écriture, c'est très. Parfois, il y a des trucs harmonisés à la seconde, comme ça, donc, la note, si ça bouge, Alors, les expressifs, ils sont plus à l'aise. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais le faire avec les cordes, mais pas une écriture forcément classique, avec des ingrédients du continent, c'est-à-dire avec une rythmique, une approche, même en pizzicato, comme un goni. Ça, dans certains sons, on va entendre, il y a un morceau, que j'appelle Asiko, dédié à Jean Bicoco, d'ailleurs. C'était Alain Memories.
Dont on a parlé l'émission voilà, d'avant. Quoi.
Et le morceau, je l'ai écrit en 11 temps. Je trouve que c'est de l'assico pour moi, mais je l'entendais comme ça. Donc voilà, je me pose pas trop la question parce que je crois que si si j'essaye d'analyser tout le temps, de réfléchir à comment on va recevoir ça. Je vais plus faire de musique.
Ça viendra pas, quoi.
Ça viendra.
Il n'y aura pas l'élément fraîcheur.
Il
n'y
aura pas l'élément fraîcheur. Alors, ça va être un truc mécanique.
Notice explicative de Amanou, parce que tout à l'heure, Gino utilisait un terme, c'est vraiment là voilà, on est dans le bain. Il parlait justement d'une formule par rapport au goni, parce que nous, on voit les staccato, les pizzicato, etc. On se dit que c'est pour le violon. Toi, tu en parles également pour les cordes africaines. C'est le terrain de la rencontre de Amanou dont on parlait et que beaucoup ne voulaient pas voir avant ce fameux opus d'Akendenge. Cette rencontre entre cet univers plus classique de Bach et puis un univers africain. Ouais,
c'est-à-dire, il te le dit pas, mais en fait, comme il a en plus fait des études de musicologie, donc il ne fait pas que chanter, tu vois. Je crois qu'il a un doctorat quelque part.
L'ethnomusicologue.
Voilà, quelque part. Et donc ça lui sert à autre chose que uniquement. D'ailleurs, là, c'est difficile de remuer les fesses. Ça interpelle ton intellect quelque part. Quand tu écoutes Dino, il faut que tu écoutes d'une façon que tu approches sa musique d'une façon différente, quoi.
Et puis c'est de l'approcher lui aussi, parce que l'omni ou l'ovni dont on a parlé, l'objet vocal non identifié sur Vocal Deliria, sur des œuvres comme Songzin, sur le superbe Voice Strings, toi après, ça a été ton passeport pour voyager finalement, parce que toi tu es allé aux États-Unis pas pour te voir en haut de l'affiche, c'était pas pour dire je vais aller à Broadway, il faut que je rencontre Michael, non, c'était d'abord pour explorer,
apprendre, explorer comme tout musicien quoi, tous les jours découvrir de nouvelles sonorités, comprendre certaines choses, combler certaines lacunes aussi. Chaque jour, d'ailleurs.
Après tout, les brasards ont été explorés en Afrique.
Aussi, ouais, il en reste des traces.
Les dinos vont explorer à New York. Exploration pour exploration. Chacun va là où il peut explorer quelque chose.
Mais c'est marrant, parce que quand on lit justement le parcours de Gino, c'est bien parce que ta famille, tout le monde est musicien, parce que on parle presque d'une initiation autour de cet appareil qui délivre de la musique, blues, jazz, la musique évidemment de chez toi, la langue, le medjumba qui passe par là, mais aussi les autres sonorités. Et puis après, quand c'est pas de faire le bœuf avec beaucoup d'artistes et d'amis artistes qui viennent de partout, parce que tu passes quand même d'un côté par Georges Ben avec des Relema, des Wally Badarou ou la Compagnie Créole, tu fais des BO de films, tu fais de la pub pour Danone, pour ne pas les citer.
Oui.
Et ensuite, tu reviens sur un terrain qui est un terrain où on écrit encore plus. Et j'ai l'impression que cette écriture-là prend de plus en plus de place chez toi.
Oui, parce que je comme je disais à un ami l'autre jour, je me laisse vivre en fait. J'essaie de me laisser vivre, de pas rentrer dans des. Enfin, j'ai annoncé les couleurs déjà avec le premier album qui était un peu décalé pour beaucoup de gens à l'époque.
Il y a Bamisphère.
Ouais, Bamisphère, oui, ça avait Ron Carter, ça sortait un peu. Et j'arrive. En fait, je laisse vivre les émotions. C'est juste quelque chose de sincère. Et j'arrive pas à compartimenter. Là, dans le nouvel album, il y a une influence baroque. Au départ, quand j'écrivais, je ne pensais pas baroque, mais je crois que j'ai tout ça en moi. Donc, j'ai des racines multiples, nomades. Je les assume.
Ah oui, c'est un bon titre, ça, Racines nomades.
Oui, ça, c'est pas mal.
Ça serait pas mal comme titre,
oui. Racines nomades. <C'est> Alors, les racines baroques, ça pourrait être un débat, d'ailleurs, sur une émission qui passe sur Canal+, le samedi ou le dimanche, avec des terriens ou des gens d'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est que Gino Citzol, lui, fait fi de tout ça. Et il a décidé, et c'est une belle démarche, de mettre en avant un travail aussi pédagogique. Parce que c'est une chose d'apprendre soi, mais quand il faut le transmettre aux autres... c'est comment, parce que c'est bien d'être assis sur les bancs de la Sorbonne et d'avoir l'autre qui en face nous délivre. Et quand c'est ton tour à toi,
quand je transmets, je suis très très patient. J'essaie de me mettre dans la peau de l'étudiant que j'ai en face de moi, et je pense que j'ai du succès par rapport à ça. Mon approche pédagogique plaît apparemment, parce que je suis à l'écoute. J'essaie de comprendre pourquoi on ne comprend pas ce que j'explique. Si on ne comprend pas, c'est moi qui ai un problème. Ça veut dire que je n'ai pas pu faire passer le message. Parce que rien n'est...
Ils n'ont pas beaucoup à le dire comme ça, les profs. Hein, généralement, si ça n'a pas marché, c'est que c'est de la faute de l'élève.
C'est vrai qu'il y a
des... c'est la nouvelle façon d'enseigner. Parce qu'ils sont deux, en tout cas, de connus. Il y a Gino, qui donne des cours de partout, comme à Mabanko aussi. Il donne cours. C'est deux francophones, finalement.
Lionel aussi se plaît maintenant de plus en plus.
Qui donne aussi des cours. Ça vient à la mode, parce que effectivement la façon de respirer n'est pas toujours pareille. Mais alors, comme Gino, lui, il a joué avec beaucoup d'artistes venant d'univers différents. Quand lui doit faire pour lui, il a déjà le fait que il est multiple, parce qu'il faut qu'il colle à chaque fois, parce que être choriste, ce n'est pas si facile que ça, hein, parce que déjà, étant donné le nombre de dialectes qu'on a en Afrique, je parle pas d'un pays même, et de plusieurs pays, faut coller, il faut avoir l'accent, il faut tout un tas de trucs pour coller à l'artiste qui t'invite. Donc, quand tu fais pour toi-même, tu as déjà cet esprit de synthèse dans ta tête, plus ta propre personnalité qui doit sortir de tout ça. Donc, c'est pas un exercice très facile. Mais c'est intéressant, parce qu'en même temps, il faut pas que ce soit scolatique, quoi. Enfin, il faut que ce soit de l'art. Il faut pas qu'on sente que, oh là là, tu as galéré pour faire. Non, il faut que ce soit. C'est ça le truc, le disque.
Alors c'est aussi transmettre de ce qu'on sait, ou d'encadrer de nouvelles voix, VOX. C'est le cas aussi, parle-nous d'ailleurs de cet artiste, Laro, qui est arrivé et tu nous as envoyé en disant c'est une artiste avec laquelle j'essaie de faire quelque chose, qui a une voix elle aussi étonnante. Vraiment, c'est la rencontre s'est passée comment? Il faut rappeler son nom entier d'ailleurs.
Oui, elle s'appelle Laro Ndjo,
comme si
j'avais. Elle vit à Yaoundé et c'est quelqu'un qui a beaucoup de
talent. Tu l'as découverte là-bas?
Oui, à Yaoundé. Je suis allé à son concert et jouer dans un club, dans une salle à Essos, à Yaoundé. Et j'étais avec un ami, Marcel Amoko, justement.
Ah tiens, sacré Marcel.
on était vachement surpris, quoi. On a dit, waouh, qu'est-ce que, qui c'est? J'ai dit, bon, ben, tiens, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Donc, j'ai arrangé ce morceau-là pour elle. Avec André Manguet à la basse, justement.
Oui, ouais. Lui aussi, un voyageur.
Lui aussi, voilà, encore un inamovible.
Incroyable. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, et les chœurs de ma case, juste, il y a une qui a perdu la vie, d'ailleurs. Merveille,
oui, Merveille, juste après. Oui, tout à fait.
Donc, et puis, la maison du bassiste a brûlé, oui. tout un tas de trucs.
Serge, j'ai eu pas mal de bobos, on pense vraiment très fort à eux.
Et donc, voilà, quoi, la rencontre, c'est quelqu'un qui est vachement... Quelqu'un de curieux, quoi, qui s'intéresse à la musique, qui aime la musique, qui est passionné par la musique, pas les paillettes, donc qui aime vraiment la musique, qui joue de la guitare, joue des balafons, du balafon.
Et il y a des sacrés musiciens au Cameroun. Quand tu te donnes la peine et qu'ils sont jamais venus par ici, tu découvres des trucs.
Incroyable.
Étonnant. Ouais. Alors, on va faire une chose, on va plonger dans l'univers de Gino. On va écouter Élégie. Alors, Élégie Opus 24, vous n'êtes pas sur Radio Classique. On les salue au passage. Vous êtes bien sur Africa numéro 1. Et juste après, on écoutera Num Wam. Parce qu'au départ, moi, je disais Num Wam. Et puis, quand j'ai bien écouté, la roue dit Num Wam. Num Wam. Ça chante si bien sur la radio africaine.
sur Africa numéro 1.
Gino Sitson est avec nous dans ce studio, Doua Manou, et puis nous permet de découvrir l'aranjo qui a une très très belle voix. Et la couleur, ben, je disais classique, d'Elegie opus 24. Souvent, il y a des précisions dans le classique. On a toujours des un mouvement, je ne sais pas quoi.
Oui, des fois, on a même le tempo. Hein.
Le tempo.
Et le la, combien?
Tout ça est très précis. Eh bien, on aime bien ça. Et puis, tu parlais tout à l'heure de tempo et de précision. Alors, sacré tempo, parce qu'il y en a deux qui sont retrouvés à la porte et il y en a un qui n'a pas reconnu l'autre. Gino Sitson avec des lunettes noires, il vient, il dit bonjour, je suis Gino Sitson, et la personne qui est à ma gauche s'est dit tu me reconnais plus.
Ah bon? Ah ben dis donc le temps.
Mais il avait un chapeau.
Ouais.
Il avait un chapeau. Ouais. Sangoun Dedine Dolo Jacques Désiré Alexandre.
Non, il n'y a pas Alexandre dedans.
Ah ouais, finalement tout le monde te le rajoute.
Oui, Alexandre c'était un de nos aïeuls.
Ah d'accord. Et tu as fait plus simple, on a gardé Sangou.
Oui.
Dedine Dolo, comment vas-tu?
Je vais très très bien.
Alors Gino, quand tu as enlevé le chapeau, là, sur le coup, dit « Ah !»
Oui, mais bien sûr. Mais tu sais, on ne se voit pas beaucoup. Il habite de l'autre côté là-bas. Moi, je suis ici et enfin, on se croise en fait. Voilà.
En même temps, vous suivez ce que l'un et l'autre fait.
Ah oui. Les ondes vont plus vite que les pirogues. Hein.
Oui, c'est vrai. Plus vite que les balles.
Jacques, c'est... Alors, je connais bien son père. J'ai bien connu son père.
James Rudolph Moukoko, dont on dit beaucoup de choses. Moi, j'ai découvert, parce que le Doua Manou, évidemment, était présent, un des fondateurs du premier festival de musique dans les années 70.
Le fondateur. Figure-toi que je venais donc des États-Unis avec Mamako, Mamasa, orgueilleux de ça, en fait. Et le premier festival en 74, je crois.
72
Non, pas 72.
74, je sais pas. J'étais pas là.
74, ben moi j'étais là. Parce que j'ai dans une pochette, j'ai une pochette Manu 76, quand tu l'ouvres, c'est une double pochette. Je suis au stade à Yaoundé avec des messages. Un énorme succès, ça a été le premier festival qui a réussi au Cameroun. D'où les problèmes que son père a pu avoir après, parce que jalousie, tout ça. Les gens ne pensaient pas festival, ne pensaient pas sponsoring. Il avait de l'avance pour le Cameroun, pour cette époque-là. Hein. Je me rappelle que Swissair et tout ça, toutes les compagnies européennes ont sponsorisé le festival. Aux grandes dames d'ailleurs, des gens du pays qui ne comprenaient pas que le succès de ça a été un succès épouvantable parce qu'on lui a pourri la vie avec cette histoire-là, tu vois. Mais alors, ceux qui ont participé au festival, ils ont un souvenir incroyable, c'était magique. Pour une fois au Cameroun, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de machin, tout le monde a payé le billet et le stade a dégusté les artistes qu'il y avait à cette époque-là. Ça s'est passé au moins une fois au Cameroun, grâce à son père.
Et ça, on le lui doit, et c'est bien de le dire d'ailleurs ici. Et ça, c'est un superbe berceau, parce que finalement, cette musique qui est déjà présente, avec un papa qui, contrairement à celui du Doua Manou, qui aime bien le rappeler, n'était pas enclin.
Non, il n'était pas chaud. Pas du tout chaud.
Là, toi aussi, ça a donné un berceau comme Gino, où finalement, tu écoutes de tout, ça va de Nico Mbarga, ça va des artistes comme Charles Mbé, et puis un certain Ekambi Brillant. Et ce qui est dingue, c'est que dans ton parcours, finalement, Ekambi aura été, ben voilà, quelqu'un aussi d'important.
Ben alors, c'est surprenant parce que moi, ce fameux festival,
t'étais pas un âge en
je
fait.
Je ne sais même pas si j'étais un tout petit minot, donc je connaissais pas cette histoire. Et Ekambi Brillant m'a rencontré ici, je devais avoir 20 ans. Et sachant que j'étais le fils de mon père, ça je ne savais pas non plus, mais il me dit, faut que tu viennes avec moi en tournée mondiale. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec toi? Il dit, non, je veux que tu sois sur scène. Qu'est-ce que je vais faire sur scène? Il dit, je m'en fous, tu joues, que tu sois là, tu fais des chœurs, ou tu joues aux percussions, je sais pas trop quoi. C'est là où je rencontre des garçons comme Père Sonam, Noël et Kwabi.
Oui, Papa Noël, oui.
Papa Noël.
Papneau, comme on l'appelait.
Papneau. Et pour la petite histoire, tonton Manu, ça tu le sais pas. Papa Noël, à chaque fois, avec son grand rire, là, il me disait, Adou, merci beaucoup. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis merci à chaque fois? Alors, il m'a raconté cette histoire. C'est que c'est grâce à moi qu'il est devenu chef d'orchestre de tonton Manu. J'ai dit, bon, ok, comment ça? parce que j'enregistre mon premier album il y a une vingtaine d'années maintenant, et c'est lui qui choisit les musiciens, et je le laisse faire, parce que très honnêtement, je suis impressionné par tous ces musiciens en réalité, qui sont tous des très 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 bons.
Ah, lui c'était un grand, lui. Alors,
extraordinaire. Et Noël et Kwabi, comme un grand frère, il se met à diriger tout ça en studio. Et deux jours après les répétitions, il m'appelle, il me dit « Adou, et dis donc, je viens de constater quelque chose, là, je suis en train de tout gérer, tu m'as rien demandé. » J'ai dit « Mais est-ce que je te dis quelque chose ?» Il me dit « Non, non, non. » J'ai dit « Bah, écoute, tout va bien. » Donc c'est à partir de là qu'il a pris goût à gérer, et la suite, bah, on la connaît, hein. Avec tonton Manu, où c'était vraiment quelque chose.
Mais tu vas dire que pour toi, je parlais de l'instant avec Ekam Bibrian qui dit je t'emmène, voilà, sur les scènes, de Papneau, oui, qui est une rencontre aussi extraordinaire qui, oui, te permet de te retrouver avec des gens qui font de la musique et pas n'importe lesquels. Mais ensuite, c'est toi qui fais le coup. Parce que quand on regarde finalement les collaborations avec Sangoon de Dindolo, ça va des Nubians, le Doha Manu, ça peut être Erika. On a parlé, nos amis d'ailleurs, Kinois de Citalanta. Et puis à un moment donné, on arrive sur Ayo, ou alors David Charvet. C'est-à-dire que là, on est vraiment wide open quand même.
Ah ouais.
Ouais.
Plutôt, oui.
Oui, oui, oui. Enfin, c'est Paris. Hein. Paris, c'est vraiment un carrefour extraordinaire. Et c'est une ouverture sur le monde, en réalité. Et moi, j'ai grandi au Cameroun, finalement. J'ai passé toute mon adolescence là-bas. Quand on a 18, 19 ans, on est déjà un bonhomme. Hein. On, oui, comprend des choses. Et mes expériences du Cameroun, qui me faisaient déjà rêver, j'arrive ici, se concrétisent, en gros. C'est-à-dire que j'écoute du reggae là-bas, j'écoute de la pop, j'écoute de tout, j'écoute même du hard rock, mon frère.
Ouais. On, oui, t'a pas traité de sorcier, non?
Non, on, ça me regarde un peu fois, bizarrement, en disant bon, tu traînes trop avec les gars là, tu vois, tu écoutes une musique bizarre. Mais moi, ça m'enrichissait tout ça, en fait.
Et il y a une phrase extraordinaire que tu as dit d'ailleurs, le Doha Manu, on est tombé sur un magazine, parce que tu donnes des interviews, mais qui sont souvent des échanges, c'est pour ça qu'il faut lire la presse, pas simplement aller, ouais, sur YouTube. J'ai fait un peu de tout, et même du journalisme, j'ai été commercial et plein d'autres choses, ouais. À chaque fois, force était de constater que je revenais à la musique, et je faisais un écart hors de ce milieu, je constatais que j'étais malheureux, malgré les sommes d'argent que je gagnais,
ça fait.
Et ouais, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus dissocier, ouais, ma vie de la musique.
Ouais.
Il y en a un autre qui a fait ça avant toi, quelques décennies. Feu Francis Bébé, oh, il avait ce problème, il était plus musicien que fonctionnaire, il a essayé, vrai, d'être fonctionnaire à l'UNESCO,
c'est vrai, c'est
de
vrai,
faire des grandes choses, parce que son frère Yidi Bébé, c'était un grand toubib qui a fait, qui était avec le Oumiobé, enfin quelqu'un qui, okay, qui a vraiment... Alors Francis avait ce complexe avec son grand frère, si bien que la musique le titillait tout le temps. Mais vraiment, c'était un musicien né, quoi.
Ça s'entendait, d'ailleurs.
Mais, bon, il fallait que il prouve à la société que...
Non, mais c'est un virus extraordinaire.
Et le virus, hein, a gagné. Il est, ah, devenu, oui, finalement musicien à temps, non, plein.
Vraiment, vraiment.
Alors, il a tellement gagné que finalement, toi, tu apprends à jouer de la basse sur une guitare acoustique.
Oui, au Cameroun, quand j'étais gamin, trouver une guitare, une vraie guitare basse, c'était un peu compliqué, hein.
Et ça, mais je suis pas le seul.
Les quatre des dernières cordes, en fait.
Exactement, ouais, on les exclut. Et...
Mais ça donne un jeu particulier, d'ailleurs.
Tout à fait, ouais.
La façon dont tu joues, ouais, on l'entend dans ce disque concocté avec Gin Sangue, Aqua, dont on a lancé la vie de recherche il y a plus de 18 ans.
Oui, oui. Et au passage, Gin Sangue, qui est un extraordinaire guitariste.
Oh, sûrement.
Ah non,
parce que Papneau était aussi guitariste, ah, oui, oui, parce, oui, que, bon, il y a souvent les bassistes, ils ont commencé. Ouais. Notre Carl Mandengue.
Jean-Lo Carl.
Jean-Lo Carl, c'est un excellent guitariste.
Ah, mais ça, je savais pas.
Ben, c'est moi qui l'ai mis à la basse.
Ok.
Voilà.
Ah, j'adore ça. On découvre.
Il était avec
les
Rico Jazz.
Ok. Oui,
il jouait la guitare et la contrebasse. Okay. Et quand Rico Jazz, ça, ouais, c'est terminé, moi, je l'ai ramassé en 65. A été faire une tournée en Bretagne. Bon, ça c'est encore une histoire, je raconterai ça un jour. Toujours est-il que je lui ai dit, voilà, on avait des problèmes de basse, il avait mis sa contrebasse, on l'appelait ça la Marie-Jeanne, sur le toit de la voiture, quoi. Pour aller de Paris en Bretagne en voiture, tu vois, on était serrés comme des sardines et tout. J'ai dit, mais tu sais, il y a des guitares basses maintenant, tu devrais te... C'est à partir de 65 que Jeannot a commencé à jouer à la basse. Hein.
Épique, wow. Hein, comme récit.
Ah ben oui, ben oui, ben oui. Tu vois, la basse au Cameroun, c'est un instrument de prédilection. On dirait que ça a été inventé au Cameroun. Hein.
Ben oui, et on le dit, mais alors au Cameroun, ce qu'il y a, c'est que tout le monde s'est dit « Eyala est enfin là oui. », pour le dire en rimant, parce que toi aussi, tu prends ton temps pour livrer des œuvres. Et la première question, c'est à chaque fois, je te la poserai pas, pourquoi as-tu attendu aussi longtemps,
oui.
Surtout quand on a le rendu et qu'on écoute. Ça correspondait à quoi d'ailleurs? Parce que tu peux prendre autant de temps pour rencontrer des artistes plasticiens ou des photographes comme Devaux qui te fait des portraits magnifiques. Et là, on se dit, ah, ça veut dire que l'album va sortir. Eh bien non, l'album sort pas à ce moment-là, tu attends encore. Donc,
Bah... Là, je suis entouré de grands frères et de d'extraordinaires musiciens. Et ils vous diront peut-être, moi, ma vision dans cette chose de disque, c'est que un disque, c'est pour les gens qui ne peuvent pas accéder à des concerts à la base. C'est ça la première des choses. Et j'aime le live, une fois de plus. Donc le fait de jouer, et je joue partout, enfin jusqu'ici, je touche du bois, je vais faire des concerts un peu partout dans le monde entier. Et donc le faire un disque pour faire un disque, je voyais pas l'utilité. Et alors, en faire un, il aurait fallu que ce soit vraiment intéressant, important, des choses à dire. Et voilà, donc l'occasion s'est présentée par la suite. Alors, comme tu disais, je suis auteur-compositeur, donc j'aime écrire pour les autres. J'aime écrire pour des voix, pour des physiques, pour des états d'esprit même, voilà.
C'est aussi important.
Il faut dire aussi que les disques en ce moment, on est à un tournant très difficile parce que le téléchargement commence enfin à devenir légal parce qu'il a fallu au moins 10 ans d'illégalité. On joue toujours aux apprentis sorciers, bien entendu. Et puis on trouve la façon de légiférer. Donc le temps que ça arrive en Afrique en abondance et que quelqu'un puisse réellement gagner sa vie avec le téléchargement, ça va prendre du temps. Parce qu'on a encore sensuel, on a besoin d'un objet, quoi, dans les mains.
Physique. Et même ici, hein, y a des gens qui aiment bien. Moi, j'aime les objets. Hein,
mais de plus en plus, il faudra bien se dire que le sensuel va disparaître toujours de plus en plus au profit du un doigt et tu télécharges, quoi.
Tout à fait.
C'est le sens de l'histoire. Il y aura toujours des amateurs. Il y a déjà le retour du vinyle. Donc, il n'y a pas plus sensuel que le vinyle.
C'est clair. Ouais. C'est clair.
Donc, les deux vont jouxter, mais c'est beaucoup plus, la carrière se fera par la scène, par les images.
Absolument.
Et surtout par le téléchargement, quoi.
Alors, ça permet au moins sur le visuel d'avoir des œuvres comme celle-ci, parce que on pensait
joli,
que ça allait être une affiche
masque.
De film ou un masque. Je me suis dit, là, sur le coup, le photographe n'était pas choisi au hasard. Le rapport au noir et blanc, toi que tu aimes beaucoup, c'est vraiment ce que tu préfères, j'ai l'impression, sur tous les sujets.
Du Chester Himes.
Ça dit tout, hein, le noir et le blanc. Hein. On mixe tout
vraiment,
ça, on a un bon mélange de quelque chose qui nous emmène là où on doit être. Il n'y a pas à discuter avec le noir et blanc, en fait.
Eh bien, non, on ne discute pas concernant une œuvre qui s'appelle Eyala et en extrait un morceau qui s'appelle Afro Night. Vous le devez maintenant en micro, dit alors, toi, quand tu chantes, c'est pas la même chose que quand tu parles. J'ai redécouvert ta voix avec ce titre. Il y en a beaucoup d'autres. On avait écouté Ngoudi et tout ça, mais là, sur le coup, il s'agit bien de Sango Mdedi, ouais, qui chante. On l'écoute.
Sango, Sango.
Motonde ye moton. Pedi Pongue Mom Pinyo Wana Soye Kumbwa Suon Biso Pedi Pongue Mom Yeah Esele Soni Kongo Zai Nima Nimele Biso Wase Yeah Oh Yeah Nasi Mi Wenye Di Malano
sur Africa numéro 1.
E botte d'inde kaloko, umbo so wenge. Badoute d'inde badom sena, mama langue yakso nyango. Nyango mamuna Africa temi matomba nde wan. Wa mo beni temwendi ya won ya tom se mo wan. Be o France, be o America, be o mundi ma wase mwese. Nongo musinga bele babo, langwe abana wa mo beni mwendi. Otomse mundi ma wase mwese. E bote dinde kaloko, mbwa so wenge. Nyango, nyango mamuna Africa temi matumba ndewan. Wamo beni temwendi ya woni ya tumse mo wan. Be o fancy, be o America, be o mundi mwa wase mwese. Nongo musinga bele babo, langwe ya bana wamo beni mwendi. O tumse mundi mwa wase mwese.
Afro Night, extrait de l'opus Eyala, signé de Sangoum de Dindolo, album remarquable avec des voix, avec des instrumentations et des arrangements. Ça donne forcément envie de le voir sur la scène. Nous, on vous dira là où il joue et quand il joue, parce que ça va pas être que Paris intramuros, j'imagine.
Bien sûr que non.
Ça va beaucoup voyager. Et puis, Gino, regardez tout à l'heure, et au-dessus de l'épaule d'ailleurs, d'une personne qu'on aime beaucoup, et qui est évidemment ici chez lui, qui est venu nous voir. On évoquait cette reine guerrière, Jinga. On avait parlé d'un article dans Le Monde, mais qui suffisait absolument pas, parce qu'il lui fallait la parole de notre inspecta. Bonjour, Douin, comment vas-tu?
Ça va un peu mieux.
Alors, ben, nous, on est content de te voir. On a vu, on parle d'une Jinga un peu partout maintenant dans la presse. Notice explicative, parce que il en a fallu du temps pour qu'ils se rendent compte que cette reine existait bel et bien.
En fait, elle a toujours existé, mais les recherches africaines ne l'ont pas prise en compte pendant très longtemps, parce que les archives des royaumes portugais et espagnols ne nous sont pas parvenus avant le 18e, 19e. Et en fait, du fait que les Africains se sont christianisés. Sinon, on serait encore en train de les attendre. Donc, il y a une sœur à nous, une noire américaine, qui s'appelle Linda Haywood, qui a fait des recherches là-dessus. Elle a eu toute la documentation de portugais et des espagnols. Et comme elle est spécialiste de l'enseignement de l'histoire africaine à l'Université de Boston, elle a été la première, à mon sens, je crois, d'en faire. C'est pas qu'un livre d'histoire, c'est un livre d'anthropologie. Elle est que vous apprenez nos systèmes de gouvernement, nos systèmes de punition, nos manières de faire la paix, toutes nos conduites en politique, en diplomatie. Sauf que là, c'est une femme. Et c'est très nouveau parce que moi, longtemps, je confondais le royaume du Ndongo avec le royaume du Congo.
Oui.
Bon, le royaume du Ndongo, c'est à peu près la région de Luanda actuelle. hein, c'est le nord de l'Angola, c'est les Mbundu, les locuteurs, si vous appelez les Kimbundu, quoi. Or, le royaume du Congo au-dessus, c'est vraiment, c'est depuis le sud du côté Bateke jusqu'au Congo actuel. Et cette dame-là, elle est arrivée au pouvoir, la première comme femme dans le royaume Ndongo, parce que son grand-père Kassenda et son père Mbandji Angola, Angola signifie roi, hein,
roi,
c'est un titre, c'est ça qui est dans le nom de Angola. Elle a été la première femme à assumer ce rôle parce que son grand-père et son père et son frère aîné ont été massacrés par les Portugais, quoi. Et ils ont résisté comme ils ont pu, mais elle a vécu leur perte et leur défaite. Elle a tout appris parce que chez eux, même les femmes faisaient la guerre. Donc, lorsque son frère aîné meurt, elle se trouve la seule qui a l'éducation militaire, l'éducation politique. Comment faire? Donc, ils ont innové. Elle est née en 1582. Elle monte au pouvoir en 1624 et elle meurt en 1663-64. Donc elle a régné à peu près 39 ans. Sur ces 39 ans de
c'est
règne.
Ce qui est énorme, vu
ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup. Mais sur ces 39 ans de règne, elle a réussi à repousser les Portugais assez loin, reconstruire l'homme Ndongo et négocier avec eux pour qu'enfin le christianisme puisse s'installer dans des conditions qui l'arrangeaient. Donc je sais pas, selon vos questions.
Oui.
Et c'est pas que de l'histoire. Par exemple, tous les statuts des esclaves, des affranchis, des serfs, les statuts des nobles, des soldats, des convertis. Donc c'est là-dedans que tu trouves ça. Donc il faut s'enlever. C'est pas seulement une histoire d'une femme qui vient régner, ce qui est déjà assez extraordinaire. Mais c'est qu'à travers cette histoire-là, on découvre toute l'organisation de sociétés qui sont nos ancêtres, que nous, on ne connaissait pas. C'est un très grand exemple, pas seulement parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est un tout, c'est une bantou.
Alors, aux éditions La Découverte signée de Linda M. Haywood Njinga, Histoire d'une reine guerrière, avec Douaimanou, quand on lit justement au dos de l'ouvrage, elle finit par obtenir la reconnaissance de son royaume par le pape Alexandre VII et par conserver son indépendance.
Ouais. Voilà, alors j'ajoute que vous ne vous trompez pas de chaîne, c'est pas France Culture, c'est Africa numéro 1, c'est la deuxième partie parce que, bon, c'est la maraboutique, hein. Mais de plus en plus, on charge cette maraboutique de connaissances extra-musicales parce que les gens qui nous aiment bien, qui écoutent, c'est bien aussi qu'ils soient informés de l'histoire de l'Afrique. Et l'inspecteur est très malin, hein, parce que je vais souvent lui rendre visite pour me nourrir, hein, de ses connaissances. Et lui, très malin, à chaque fois, il met deux ou trois livres à ma portée. Il dit rien, hein. Il dit rien et il boit son coup, on bavarde et tout. Moi, sachant que je suis curieux, il sait que je vais regarder tout à l'heure. Je regarde, je tombe donc sur cette reine. Et nous en avons parlé 15 jours après parce qu'il y a eu un article.
Dans Le Monde.
Dans Le Monde, mais bon, j'étais déjà au courant parce que l'inspecteur m'a fait voir ces histoires-là. Alors moi, évidemment, je commence à feuilleter, il bavarde, moi je feuillette. Et puis j'ai dit non. Voilà, c'est dommage que ce soit un peu court. Mais bon, on en reparlera, hein, de cette histoire.
Non, mais c'est
très,
clair,
très, très intéressant.
Parce que c'est vrai qu'il y a des figures dont on parle beaucoup sur l'histoire du continent, Kimpa Vita et autres et tout, mais il faut s'arrêter et revenir... sur ce temps, parce que là, quand même, 16e siècle, ce n'était pas aujourd'hui. Gino Sitson, Sangoun Dedin Dolo, avec des actualités pour Gino, l'album qui arrive d'ici le mois de février, pour Sangoun Dedi Eyala, qui est déjà présente dans les bacs, les téléchargements.
Il a légal. Surtout en téléchargement.
Eyala, ça veut dire parole.
Et parole.
Parole,
c'est important. Nous, on a pris cet ouvrage. D'ailleurs, on va passer d'ailleurs le relais à la suite de l'actu sur Africa numéro 1, mais quelque chose me dit un spectacle. Que notre ami Francis Laloupeau risque de lorgner sur ce livre. S'il nous écoute,
je pense qu'il va falloir qu'il lorgne et puis que la conversation.
Petite info pour vous, ce monsieur veut me voir juste avant qu'il n'ait aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Pour que je donne des contacts au monsieur africain des études africaines de New York. Donc il sait de quoi je m'occupe depuis très longtemps. Il n'a pas attendu, lui, ce bouquin.
Et voilà le résultat.
Je vous l'ai dit comme ça, parce qu'il ne vous le dira pas, il est trop modeste. Non.
C'est déjà la fin.
J'apprends par vous qu'il enchaîne maintenant l'ethnomusicologie. Vous voyez ce que ça peut me faire.
Ça peut faire. Non, mais je pense qu'après, qui sait, pour des modules. Le temps passe vite. Maintenant, on est déjà à la fin de l'émission.
Oui, ça donne envie. de revenir la prochaine fois, la semaine prochaine, pour peut-être encore d'autres miracles.
Et oui.
Dans la maraboutique, effectivement, dans la maraboutique, l'origine de maraboutique, d'ailleurs, c'est, c'est l'inspecteur qui a trouvé la, là, cette phrase-là depuis M. Trimbal, que je l'ai amené ici. Je n'ai pas volé, hein. Mais bon, entre autres. Et donc, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres merveilles de l'Afrique,
hein, finalement. Et oui, www.africain.com pour ceux qui nous auraient pris en cours et pour réécouter le podcast. Et puis rendez-vous à 10h la semaine prochaine.
Et comme d'habitude...